dans ce début du culte. Simplement, c'est un mot qui m'a accompagné, ce mot silence, dans la préparation de ce matin, en lien avec les textes de la prédication. Vous le savez, il y a des silences bien différents les uns des autres. Il y a le silence bienfaisant, celui auquel on aspire, par exemple, lorsque le chat n'arrête pas de miauler derrière la porte de la chambre à coucher tôt chaque matin. Je peux vous assurer qu'il y a du vécu là derrière. Non, mais il y a aussi, c'est vrai, des silences oppressants, des silences assourdissants, notamment lorsque nous nous retrouvons seuls face à un ciel désespérément vide. Et c'est un tel silence d'ailleurs que nous retrouvons au cœur des évangiles. Je vous explique. La semaine passée, Philippe Anchaud, notre pasteur, a prêché sur le récit des deux brigands qui ont été crucifiés avec le Christ, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. À ce moment-là, l'ambiance semblait plutôt assez animée. Hein. Les insultes fusaient à l'égard de Jésus. Les chefs du peuple, les soldats se moquaient de lui. Et dans ce brouhaha, eh bien, une parole a fait son chemin, adressée à l'un des brigands. Vous en souvenez ? Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, dans le paradis. Je ne sais pas hein, s'ils furent nombreux à entendre cette parole, mais quelle espérance, quelle promesse derrière ces quelques mots. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ce matin, Philippe abordera la suite de ce récit. Lorsque petit à petit, l'obscurité a envahi toute cette scène tragique, en même temps qu'un silence épais va recouvrir tous les protagonistes, un silence que seul le cri de Jésus viendra déchirer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quel contraste, les amis, entre ces deux paroles. Hein. L'une remplie de promesses, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et cette autre parole, reflet d'une absence cruelle, d'un vide angoissant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous sommes là, au cœur des évangiles. Jésus, le seul juste, meurt sur la croix. « Tout est mystère », dira un célèbre prédicateur, John Wesley, « tout est mystère. L'immortel meurt et Dieu se tait. » Que faut-il comprendre ? Alors heureusement, Dieu est bon, il nous a envoyé l'apôtre Paul, il nous a envoyé Apollos, il nous a envoyé Philippe Anchaud comme serviteur du Christ, c'est-à-dire, selon 1 Corinthiens 4.1, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. Alors Philippe, je te souhaite bon courage et on compte sur toi pour nous éclairer sur ces textes tout à l'heure. Mais pour l'heure, c'est encore à un autre silence que j'aimerais vous conduire ce matin. Maurice Tsundel, je ne sais pas si vous le connaissez, un théologien quelque peu atypique, disait ceci, « Nous sommes responsables de Dieu et de sa vie en nous. » Je le redis. Nous sommes responsables de Dieu et de sa vie en nous. Notre ouverture spirituelle, dont nous avons l'initiative, déterminera la présence et l'action de Dieu en nous. J'aime bien cette parole. Autrement dit, c'est pour rencontrer l'amour au cœur de notre cœur, il faut nécessairement être à l'écoute de Dieu. Voilà, voilà, voilà. Évidemment que ça ne va pas marcher. Voilà. Dieu, Maurice Tsundel le dit, est un secret, un mystère qui ne s'entend que dans le silence du moi. Alors j'aimerais vous inviter ce matin à entrer dans ce silence intérieur, ce silence du moi, c'est-à-dire à peut-être, oui, résolument, mettre de côté, pour un instant, nos craintes, nos soucis, nos récriminations, nos rancœurs, nos douleurs même, afin de nous tourner vers Jésus-Christ, afin de tourner nos yeux vers le Christ, de nous ouvrir à sa présence et de nous laisser toucher par sa parole, notamment celle en Hébreux 13,15 qui nous dit ceci, « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. » Je vous invite à la prière. Béni sois-tu, Père Céleste, toi qui nous accueilles dans ta maison, donne-nous d'ouvrir nos cœurs à ta présence. Béni sois-tu, Père, tu es celui qui nous appelle à la vie, à une vie qui porte du fruit en abondance. Donne-nous de nous mettre en route avec foi. Béni sois-tu, Père, tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Donne-nous de savoir goûter à ton repos. Béni sois-tu, Père, tu es celui qui pardonne et nous relève quand nous trébuchons. Donne-nous de savoir nous repentir. Merci pour ceux qui sont dans la joie ce matin. Merci de prendre soin de ceux qui sont fatigués, chargés. Merci pour ta grâce à l'égard de chacun d'entre nous. Amen. J'invite le groupe de louanges à me rejoindre afin de nous conduire dans un temps d'adoration et de reconnaissance. Merci.
Je vous invite à continuer dans ce temps de silence, mais dans ce temps intérieur, avec ce premier chant, je continuerai à te louer, je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Ces paroles, elles me font quand même beaucoup penser au psaume. je verrai assez bien. Finalement, David chantait ses paroles. Et je vous lis quelques versets du psaume 31. « Accorde-moi ton appui, Seigneur, je suis dans la détresse, corps et âme. Mes yeux se voilent, tant j'ai de chagrin. Ma vie décline sous l'effet des tourments, les années passent, je m'épuise en soupirs. Les torts que j'ai m'ont fait perdre toute énergie, mes dernières forces s'en vont. » Mais moi, je me fie en toi, Seigneur. Je dis, mon Dieu, c'est toi. À tout moment, ma vie est entre tes mains. Arrache-moi aux griffes de mes ennemis, de mes persécuteurs. Fais-moi bon accueil à moi, ton serviteur. Seigneur, ne me laisse pas déçu d'avoir fait appel à toi. Seigneur, quel grand bienfait tu réserves à tes fidèles. Tout le monde peut voir que tu l'accordes à ceux qui ont recours à toi. Tu les mets à l'abri en ta présence, hors de portée des intrigues humaines. Tu les caches dans ta maison. Seigneur, merci de m'avoir montré ta bonté merveilleuse à moi qui étais comme une ville assiégée. J'étais troublée au point de dire « Me voilà chassée loin de ton regard. » Mais tu m'as entendue quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon secours. Aimez le Seigneur, vous tous, ses fidèles, car le Seigneur veille sur ceux qui croient en lui. Vous tous qui comptez sur le Seigneur, ressaisissez-vous et reprenez courage. Seigneur, ces paroles, peut-être sont les nôtres aujourd'hui, peut-être pas. Mais Seigneur, merci parce que tu nous accueilles, quelle que soit notre condition intérieure. Seigneur, qu'on fasse silence, qu'on soit joyeux. Merci parce que ta main, ton cœur sont suffisamment grands pour nous accueillir et nous comprendre. Seigneur, que ce temps de louange soit un temps de cœur à cœur avec toi. C'est ce que nous désirons. Merci pour les chants qui ont été composés, qui vont conduire ce temps de louange. Que les paroles puissent être comme un baume sur le cœur de chacun ici ce matin. Amen.
Victoire, Jésus.
merci pour cette vie que tu nous donnes, où qu'on en soit dans notre chemin de vie terrestre. Tu es la vie et tu désires habiter en nous. Nos cœurs répondent à ton amour. Seigneur, merci parce que tu es le seul espoir pour les nations. Espoir d'amour, espoir de vie, espoir de paix. Amen. Connaître aussi le mystère, ce mystère de Dieu, d'homme, mystère infini. Je vous invite à chanter ces paroles, mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu, réunis en parfaite harmonie.
Yeah.
Seigneur, devant un si grand amour, on ne peut que rester silencieux dans en nous-mêmes aussi. Et notre cœur, notre esprit a envie de te dire, Seigneur, oui, je me confie en toi, avec tout ce que ça veut dire, avec tout ce que je suis aujourd'hui. Amen. Je vous invite à vous rasseoir.
Pour ce temps de louange. Voilà, j'aimerais inviter les enfants à rejoindre vos moniteurs, c'est le moment. Voilà, Jésus est aussi venu pour vous, il vous accompagne dans le reste de cette heure, qu'il puisse vous bénir. Nous bénissons aussi les moniteurs, monitrices qui les accompagnent. Et demandons que l'Esprit Saint soit avec eux. Voilà, nous voulons lire les deux textes qui vont amener à la prédication. Premier texte que je lirai dans l'Évangile de Luc, chapitre 23, les versets 32 à 43. Avec Jésus, on emmena aussi deux autres hommes, des bandits qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre en lui disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des deux criminels attaché à une croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie ? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice, nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. »
Et le second texte, c'est dans Marc 15, les versets 25 à 41. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec Jésus, ils crucifièrent deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Et toi qui as démoli le temple et qui le reconstruis en 3 jours ?» Sauve-toi toi-même, descends de ta croix. De même aussi, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les interprètes de la loi. Ils se disaient entre eux, « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de sauver lui-même, lui, le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix. Alors nous verrons et nous croirons. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité. Et cela dura jusqu'à 3 heures l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani !» Ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « voilà qu'il appelle Élie !» Un homme courut imbiber une éponge de vinaigre, la piqua au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive en disant « laissez-moi faire, on va bien voir si Élie vient le tirer de là. » Mais Jésus poussa un grand cri et expira. Alors le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit « Cet homme était vraiment fils de Dieu. » Il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin, parmi elles Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, le jeune, et de Joseph, ainsi que Salomé. Quand il était en Galilée, c'était elle qui l'avait suivi en étant à son service. Il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem.
Merci beaucoup pour ces deux lectures magnifiques. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Deux paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Comme dit dimanche dernier, j'ai pensé évoquer ces deux paroles en les associant, surtout en raison du contraste entre elles. À la fois, une déclaration inattendue de Jésus aux brigands et cette question douloureuse de Jésus à son père. Si nous mettons ces deux paroles côte à côte, nous nous trouvons en face de deux sommets. Le premier sommet, nous avons tenté de le gravir dimanche dernier, un sommet de proximité, d'accueil, par les mots touchants de la grâce la plus gratuite que l'on puisse imaginer. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et de l'autre côté, un sommet de souffrance qui dépasse largement la capacité de notre entendement par les mots de la plus indescriptible des solitudes. Jésus s'écrie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Remarquez que Jésus qui va vivre ces heures redoutables choisit d'accomplir jusqu'à la dernière extrémité de sa vie son rôle de bon berger. Il va chercher la brebis perdue dans les endroits les plus inaccessibles et les plus désespérés. Et il offre aux brigands repentants le bien suprême, celui de sa présence. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Sa présence. Et lui-même, le saint, le juste par excellence, le Fils entièrement soumis à la volonté de son Père, va connaître la séparation jamais entrevue jusque-là. Le sentiment de solitude totalement étranger à sa nature de Dieu est poussé jusqu'à l'insoutenable dans sa nature humaine. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je formule l'espoir pour nous que la méditation de ces deux paroles puisse nous aider à percevoir quelque chose de significatif quant à l'œuvre du Seigneur en notre faveur et nous aider à l'aimer plus, à l'aimer mieux, à lui faire confiance. Un sommet de souffrance pour Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Nous sommes, avec cette parole, devant un sommet de souffrance pour Jésus. Et un sommet de mystère pour nous. Nous ne pouvons pas aborder cette parole de Jésus sur la croix comme n'importe quelle autre parole. Il me semble que nous effleurons ici quelque chose d'inaccessible. Dieu qui demande à Dieu, en citant la parole de Dieu, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Découvre ici l'expression de sentiments qui ont atteint leur paroxysme durant ces heures, qui sont celles du total achèvement d'une mission. Ma suggestion ici, c'est que cette parole-là n'est pas simplement une citation du psaume 22 au verset 2, que Jésus cite effectivement ici. Mais ce n'est pas juste une citation. C'est une parole que Jésus reprend entièrement à son compte. C'est une parole qui traduit une expérience personnelle, vécue dans une formidable intensité, une expérience personnelle que Jésus va exprimer dans sa langue maternelle. Quelque chose qu'il dit dans sa langue de tous les jours. Eli, Eli, lama sabachthani. Son langage à lui, que Marc choisit de nous traduire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et il y a là un premier élément de mystère à souligner. Premier élément de mystère qui est en rapport, je crois, avec la connaissance que Jésus avait de toute chose. La connaissance que Jésus avait de toute chose. Jésus savait, alors qu'il passait par un chemin complètement nouveau pour lui, le chemin de l'identification concrète avec une humanité pécheresse, Jésus savait que ces heures-là était unique et crucial pour la réalisation du plan éternel de Dieu. Jésus était conscient de vivre des instants qui n'avaient jamais existé dans l'histoire et qui ne se répéteraient jamais dans l'histoire. Il était conscient, Jésus, de vivre précisément le moment pour lequel il était venu sur la terre. Il s'était préparé à vivre cette heure. Jean nous dit que Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, que Jésus savait qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Jean 13, verset 3. Jésus savait. Et le Jésus qui sait, le Jésus qui connaît les choses, demande pourquoi. Est-ce que Jésus savait réellement à l'avance que l'épreuve irait jusque-là? Est-ce que nous découvrons dans cette parole une part d'inconnu dans la conscience du drame que Jésus allait vivre à Golgotha et qu'il l'a fait transpirer jusqu'au sang à Gethsémané? Est-ce que nous sommes là devant une part d'inconnu inhérente à sa condition de dépouillé volontaire? Je ne sais pas. Mais je découvre au travers de ce cri que notre Seigneur Jésus est arrivé lui aussi un jour devant le gouffre de l'incompréhensible, devant le gouffre de l'inexplicable, et que notre Seigneur Jésus en a connu la douleur dans toute sa réalité et toute sa profondeur. Je crois que si cette parole nous est rapportée dans l'Évangile, c'est pour nous faire mesurer de la manière la plus complète possible jusqu'où sont allés l'humanité et le dépouillement du Seigneur Jésus. Ce n'est sans doute pas pour que cette parole soit livrée à nos tentatives d'explication, mais plutôt pour nous pousser à la reconnaissance envers celui qui a connu à notre place le plus grand des abandons, pour que nous, nous ne soyons jamais abandonné. Cette parole, dans la liste des sept paroles de la croix, est la parole centrale. Il y en a trois avant, il y en a trois après. Je fais partie de ceux qui pensent que cette parole est centrale, pas seulement en raison de sa position centrale dans la liste des sept paroles de la croix, mais parce que cette parole se situe au cœur même de l'acte rédempteur. Parce que cette parole rend compte du moment où Christ vit dans sa personne l'acte de son sacrifice dans sa plus forte intensité. Cette parole-là fait office de charnière entre sa vie terrestre et l'humanité et l'éternité, pardon. Une parole charnière entre sa vie terrestre et l'éternité. À partir de cette parole, nous pouvons dire qu'il y a un avant et un après l'abandon. Alors que sa relation avec le Père date de toute éternité, cet instant de l'abandon marque pour toujours le tribut le plus lourd que Christ a payé à son incarnation. Et l'instant le plus lourd que Christ a payé à son incarnation, c'est l'instant de la fracture dans la relation avec Dieu son Père. Et je me rends compte qu'on peut s'interroger sur la nature réelle de cet abandon. On peut se demander s'il s'agissait d'un abandon réel par le Père, ou plutôt d'un sentiment d'abandon, d'une impression d'abandon. On peut penser dans ce sens à l'expérience de plusieurs dans l'histoire avant Jésus. L'expérience de Job, par exemple. Ou même l'expérience du peuple d'Israël à certains moments, lorsqu'ils crient les uns les autres, leur solitude, leur sentiment d'abandon de Dieu. Où es-tu, Seigneur ? Où es-tu ? Et dans tous ces cas, nous arrivons à la conclusion que nous n'avons affaire qu'à une impression d'abandon, parce que Dieu n'a jamais été loin de chacun, en réalité. Une impression, un sentiment, c'était du subjectif, il se trompait. Mais qu'en est-il pour Jésus ? Est-ce que Jésus s'est fait abuser par ses sentiments ? Est-ce que Jésus aurait pu dire à un moment dans sa vie une parole qui ne reflétait pas l'exacte réalité des choses ? Est-ce que nous pouvons parler de rupture, de faille dans la Trinité ? Je me rends compte que les mots sont de toute façon insuffisants et inadéquats pour qualifier l'expérience de Jésus sur la croix. Mais ce qui est absolument sûr, c'est qu'il s'est passé quelque chose de radicalement nouveau et douloureux et inattendu pour Jésus. Nous connaissons ces paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, où Paul parle de dépouillement en évoquant l'abaissement de Jésus jusqu'à la condition d'homme. Mais est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose de plus qu'un simple dépouillement, qu'une simple humiliation volontaire ? Je me rends compte qu'il est imprudent d'insister sur l'aspect subjectif de ce cri. Est-ce que Dieu aurait pu être abusé par ses propres sentiments ? Ce qui me semble essentiel de garder, c'est que Jésus a réellement vécu ce qu'il a dit. Et nous devons chercher le sens de cet abandon pour lui. Ces paroles-là sont celles de celui par qui tout existe et par qui tout a été créé. Colossiens 1, verset 16. Donc, ces paroles ne peuvent être que des paroles qui correspondent à la vérité, à la réalité. Jésus n'évoque pas le sentiment d'abandon, une impression d'abandon, mais Jésus pose à son Père la question la plus directe qui soit, « Dieu, pourquoi as-tu fait ça ?» Jésus qui s'est abstenu d'ouvrir la bouche pour se plaindre, Jésus qui s'est abstenu d'ouvrir la bouche pour accuser ceux qui le traitaient injustement, Jésus a bel et bien été la brebis muette devant ceux qui la tondent. Il a parlé pour les autres, il vient de le faire pour le brigand à ses côtés. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais ici, dans un instant indéfinissable pour nous, il laisse s'échapper le cri le plus dramatique de l'histoire de l'humanité. Parce que Jésus se trouve dans un état de rupture, de communion avec son Père, que pour la première fois de l'histoire, il n'appelle pas Père, mais mon Dieu. Il exprime sans aucun doute la douleur la plus profonde et la plus inconnue pour lui jusque-là. Quel est le sens de cet abandon ? De Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 1 Pierre 2, 24. Il a pris nos péchés sur lui, il les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Le sens de l'abandon, c'est que la justice de Dieu repose sur nous. Là, sur la croix du calvaire, abandonné du Père, il a été traité comme s'il était nous, un pécheur, pour que nous puissions être traités comme si nous étions lui, injuste. Le grand échange, le renversement de la vie. Et même si cette parole n'est finalement pas la dernière des paroles de Jésus sur la croix, même si Jésus n'est pas mort abandonné du Père, mais en remettant avec confiance sa vie entre les mains de Dieu, cet état d'abandon, Jésus l'a connu dans toute son horreur. Et la dimension du temps ne change rien au fait. C'est la première fois que Jésus demande à Dieu pourquoi. C'est la seule fois où Jésus demande à Dieu pourquoi. Lui qui a déclaré avoir toujours connu l'intimité la plus totale avec son Père, la collaboration la plus étroite dans l'œuvre commune de création, de rédemption, il apparaît cette fois comme celui qui s'interroge douloureusement sur l'action de ce Père. Alors que Dieu a confirmé publiquement par deux fois son amour sans borne pour son Fils, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans cet instant où le secours apparaît le plus urgent, où le soutien serait le plus nécessaire, Dieu ne répond plus que par le silence et par la distance. Et Jésus connaissait parfaitement toutes les promesses que Dieu avait faites par le passé à son peuple. Promesses qu'il ne les abandonnerait jamais. Et alors que la foule vient de faire de lui le véritable objet d'un spectacle pendant son procès, alors que la foule est là, maintenant, se moquant de lui, l'injuriant, alors que sa mère est présente, et l'on sait la fréquence du recours à la mère, lorsque les hommes voient arriver leur fin, Jésus expérimente à cet instant la condition du Fils abandonné. Abandonné. Pourtant, il sait, malgré son pourquoi, que tout cela est bien le résultat de la volonté du Père qu'il a prié à Gethsémané. Pas ma volonté, mais la tienne. Le pourquoi de Jésus n'est donc pas un pourquoi de contestation ou un pourquoi de révolte. Il est le cri arraché à un corps qui saigne et à un cœur qui se brise au déchirement d'une union éternelle. Ce qui manque à ce cœur de fils à cet instant, ce ne sont pas les 12 légions d'anges qui auraient pu intervenir à son service. Ce qui manque à ce cœur de fils, c'est l'intimité avec le Père. C'est la douceur et la permanence de cette union-là. Et cette distance avec le Père est d'autant plus dramatique que de son côté, Jésus, lui, reste fidèlement attaché à la parole de son Père. Parole qu'il cite, pour crier son indicible douleur. Jésus ne choisit pas d'autre moyen que de citer la parole éternelle de Dieu. Psaume 22, verset 2. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est dire ici, mes amis, c'est dire ici l'extraordinaire témoignage de la valeur de cette parole aux yeux de Jésus. Et c'est un exemple pour nous. Quand Dieu se tait, quand nous n'entendons pas Dieu, quand nous avons l'impression d'être livrés à nous-mêmes, seuls, abandonnés, quand Dieu se tait, sa parole écrite parle encore et toujours. Et si un jour vous avez un doute là-dessus, méditez le texte de Jésus en croix. Quand Dieu se tait, Jésus cite la parole de Dieu parce qu'elle a de la valeur pour lui. Voici Jésus devenu victime à notre place, portant le poids de nos fautes, comme l'affirme Paul en Galates 3, verset 13, il a littéralement été fait péché pour nous. En voyant son Fils à la croix, Dieu a vu en même temps les péchés de l'humanité qu'il portait, et il a détourné son regard pour que la condamnation soit totale. Dans cet instant ultime, l'incalculable densité de la culpabilité des hommes pèse sur Jésus de tout son poids et le plonge dans la nuit. Une nuit tellement noire qu'elle n'est même plus atteinte par le regard de Dieu. Une nuit spirituelle accompagnée d'une nuit physique, matérielle, une nuit exceptionnelle, en pleine heure de midi, dit le texte. Ce matin, pour nous, tâchons de nous souvenir que ce cri que Jésus a poussé sur la croix avant de mourir est une puissante confirmation de la totale efficacité de son sacrifice. Un sacrifice qui est allé jusqu'au bout, jusqu'au rejet des hommes et jusqu'au rejet de Dieu. La solitude de Jésus sur la croix est le lieu unique de la condamnation totale et définitive du péché. Une condamnation parfaitement consommée. Et cet abandon-là, Jésus l'a subi un jour pour que nous ne le connaissions jamais. Si Dieu a accepté de passer par ce chemin, c'est parce que sa volonté est que nous ne passions jamais par là nous-mêmes. C'est fait. C'est accompli. C'est consommé. Abandonnés, nous ne le serons jamais. Jamais. C'est pourquoi Paul peut écrire dans sa lettre aux Romains qu'aucune condamnation, aucune condamnation n'est possible pour ceux qui sont en union avec Christ. Et que rien, désormais, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu, c'est pas juste un gentil Dieu qui crée des choses super sympas. C'est pas un truc mou et cotonneux, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est manifesté en Jésus-Christ, abandonné du Père sur la croix. Enfin, et je termine ici, ce cri du Seigneur, c'est un exemple sans égal de la liberté que nous avons, nous, devant Dieu, d'exprimer ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes limités dans notre compréhension de ce cri du Seigneur, mais au moins nous pouvons dire qu'il a été exprimé Et c'est une grâce pour nous. Jésus vit une rupture incompréhensible pour lui et il le dit. Il ne cache ni sa souffrance, ni son incompréhension. Il le dit. Et permettez-moi d'y voir là l'affirmation que la prière est par excellence la plus formidable liberté qui nous soit donnée. Pas la prière lisse, convenue, la prière qui jaillit du cœur, qui nous fait dire à Dieu, y compris nos pourquoi. La liberté de dire à Dieu nos angoisses, nos paniques, nos pourquoi. En particulier, ceux que l'on n'oserait exprimer devant personne d'autre que lui. On peut laisser jaillir devant Dieu notre cœur. On peut ne pas laisser les pourquoi de notre vie nous ronger, mais les exprimer au Seigneur, qui les comprend parfaitement, parce que lui aussi a su demander à Dieu pourquoi. Je conclus. Il me semble que ces deux paroles que nous avons méditées courtement ces deux dimanches ne peuvent que nous amener plus loin sur le chemin de la reconnaissance, de l'attachement au Seigneur. Elles nous disent avec une force toute spéciale la fidélité du Seigneur dans tous les instants de la vie terrestre. Une fidélité qui a rempli admirablement sa mission, une fidélité qui n'a reculé devant rien pour réaliser un salut parfait et pour que tout soit indiscutablement accompli. La parole du Seigneur au brigand nous a rappelé que sa présence est le plus grand bienfait que nous puissions souhaiter et la plus grande promesse qu'il puisse nous faire. Être avec lui, c'est la grâce au-dessus de toutes les grâces qui nous sera faite lorsque nous quitterons cette vie. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et sa présence, c'est celle qui nous accompagne dès maintenant, tous les jours, n'en doutons jamais. Même lorsque nous n'avons pas les délivrances que nous espérons, que nous souhaitons, que nous attendons, il nous accompagne. Nous ne serons jamais abandonnés. Jamais. Amen.
Je vous invite à prendre quelques instants pour laisser résonner dans nos cœurs cette parole de Dieu qui a été prêchée ce matin, les paroles aussi de cette prédication, et que nous puissions saisir aussi l'occasion d'une prière à notre Dieu. Je vous invite à prendre ces quelques instants. Nous voulons aussi saisir l'occasion d'élever à Dieu quelques prières de reconnaissance. Reconnaissance de cette œuvre du Christ à la croix. Je vous invite à élever quelques prières courtes.
Tu as dû abandonner ton fils parce qu'il représentait le mal, mais ta parole nous dit que tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Seigneur, pour moi, c'est le summum de l'amour, de penser que tu as abandonné ton fils, ce que je ferais jamais moi au moment où mon fils avait besoin de moi. Et tu l'as fait pour que je sois sauvée, Seigneur. Alors, les mots ne veulent rien dire, mais Seigneur, que ce soit la reconnaissance de mon cœur. Amen.
Amen. Merci Seigneur Jésus pour la grâce de ta présence dans nos vies, jusqu'au cœur des temps les plus difficiles, les plus douloureux. Merci pour cette promesse que tu seras avec nous tous les jours. C'est une grâce et nous voulons vivre de cette grâce jour après jour. Et nous voulons aussi en témoigner autour de nous. Amen. Je vous invite encore à chanter cette grâce de Dieu. Merci à l'équipe Louange de me rejoindre. Au 382, au Calvaire, nous voulons chanter ce chant aussi comme une prière, une reconnaissance de ce sang qui a coulé à la croix pour moi. Je vous invite à vous lever.
Comme un brigand.
place. Le sang coulant du calvaire, répandu sur nos cœurs, enlève chagrin et misère, purifie le pécheur. Enlève chagrin et misère. Et je pense que c'est bien dans cet état d'esprit que nous voulons entrer dans ce temps de scène et partager ce repas de scène, de communion, qui nous rappelle ces événements, qui nous rappelle cette mort à la croix du Christ, la mort à la croix pour moi, mais dans cet état d'esprit de joie, de reconnaissance, de paix de ce que Jésus a fait. Ces paroles que nous avons entendues, cette prédication a su nous rappeler ces sommets, effectivement, atteints dans cette souffrance du Christ, et aussi de ce qu'il a fait, de cette compréhension de cette œuvre du Christ à la croix, de cette reconnaissance que nous pourrons avoir pour cela. Et en même temps, je me disais aussi de ce qui attend effectivement le pécheur qui meurt sans connaître Dieu, puisque cette souffrance du Christ sera celle du pécheur qui meurt sans Christ. Et je comprends mieux aussi, en tout cas, ça parle un petit peu différemment, cette parole de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 5, versets 20 et 21, on a déjà entendu une fois, qui dit ceci: « Au nom du Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Et on comprend mieux pourquoi ce désir que chacun soit réconcilié avec Dieu. Car celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. En prenant ce repas de la scène, nous allons manifester notre foi dans cette parole de Dieu, notre foi dans cet acte de grâce, cette mort du Christ à la croix pour moi. Et nous allons manifester notre communion. Je suis mort à la place. Enfin, Christ est mort pour moi. Je suis vivant avec le Christ. Et nous voulons aussi, ensemble, dans cette communion, les uns avec les autres et avec le Christ, témoigner aussi au monde de cette œuvre, à ce monde qui a tant besoin d'entendre, de voir cette œuvre du Christ à la croix. Dieu saint et juste, Dieu saint et bon, avec ce pain et ce vin, nous t'apportons ce qui fait notre quotidien. Nous t'apportons nos larmes, nos tristesses, nos cris de détresse, mais aussi nos joies, nos espérances. Nous voulons nous approcher de ta table en oubliant nos amertumes, nos animosités, en abandonnant nos querelles et nos révoltes. Nous t'en prions, Dieu, notre Père, sanctifie-nous par cette communion. Donne-nous un cœur pur afin que nous puissions te voir. Donne-nous un cœur humble afin que nous puissions t'entendre. Donne-nous un cœur aimant afin que nous puissions te servir. Donne-nous un cœur croyant afin que nous puissions vivre de ta vie. Accueille-nous maintenant à ta table et dans la lumière de ta résurrection, qu'elle transfigure nos vies et donne-nous ta paix. Je vais lire le texte de l'institution. Merci de me rejoindre. En Matthieu 26, versets 26 et suivants. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Nous prions. Merci pour la croix, source de notre salut, source de notre joie. Nous mesurons ce que cela t'a coûté, ô Dieu. Et nous voulons prendre ce mémorial avec de la reconnaissance. Merci de nous avoir sauvés. Nous nous réjouissons de prendre un jour ce repas avec notre cher Sauveur et les croyants de tous les âges, avec toi dans le paradis. Amen.
Amen. Amen. Ce repas de communion auquel nous sommes tous invités nous sort de nos isolements et nous unit en un même corps, dans une même foi, en un même amour et une même espérance en Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur. Merci à trois personnes de bien vouloir nous rejoindre pour la distribution du pain et du vin. Il y a sur ces plateaux du vin à l'extérieur et du jus de raisin pour ceux qui le préféraient au centre de ces plateaux. Il y a aussi une coupe que Philippe Anchaud tient. Si vous préférez communier à la coupe, merci simplement de lever la main et Philippe viendra vers vous. Nous voulons rester dans ce temps en présence de notre Seigneur. Et si quelqu'un désire partager une parole, une prière, soyez libres.
toi, pour qu'un jour tu les attires à toi, Seigneur, que tu as des circonstances où ils se donneront à toi. Et Seigneur, je veux croire jusqu'au dernier souffle que cette prière-là, tu entends et un jour ça sera exaucé. Oh Seigneur, je veux te louer et te glorifier parce que tu es digne de louange et toute adoration et que nous puissions faire avoir une confiance absolue que tu ne nous ouvres pas la porte seulement à nous, mais à toute notre descendance. Gloire que soit rendue. Amen.
Amen.
Merci Seigneur notre Dieu pour ce pain et ce vin qui renouvellent nos forces, qui nous permettent d'envisager ces jours qui viennent, marchant avec toi sur ce chemin d'espérance que tu as tracé devant nous. Merci de nous renouveler aussi Seigneur dans notre service, dans notre ministère de réconciliation que tu nous as donné à chacun et à chacune, celui de porter cette parole d'évangile afin que le monde croie en ton amour. Donne-nous, Seigneur, de saisir les occasions qui se présentent à nous pour partager cet amour du Christ, de toutes les occasions, de toutes les manières, afin que tu sois glorifié par toutes les nations et que tout genou fléchisse devant toi. Merci de ta présence, jour après jour, à nos côtés. Amen. Amen. Règne en moi, je vous invite à chanter ces paroles. Règne en moi, qui nous permettra aussi de passer l'offrande au milieu des rangs.
chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta bonté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Fais sur mes rêves, sur mes erreurs noires. Tu es Seigneur de tout en moi.
Seigneur, nous te bénissons parce que tu règnes sur nos vies, parce que nous pouvons te laisser régner dans nos vies. Nous te demandons aussi, Seigneur, de régner sur nos finances, sur nos sous. Nous savons à quel point c'est un lieu aussi où notre foi est engagée, dans cette bonne gestion de nos revenus et de nos biens. Seigneur, merci de bénir cette offrande, qu'elle puisse servir à ce à quoi elle est destinée. Et nous te remettons tous ceux et celles qui vont gérer cet argent, afin que cela soit pour ta gloire seule. Amen. Je vous invite à reprendre place. Merci. Là, nous arrivons au bout de notre culte. L'heure est déjà bien avancée. Merci. Si certains doivent s'en aller, nous le comprenons tout à fait. Il y a encore quelques annonces. Alors, j'invite Michel pour les annonces. Merci, Michel.
Les annonces du jour. Alors, mardi prochain... le dernier atelier biblique sur cette thématique diable, démon et lien occulte, magie blanche, moyen de lutte, c'est le thème du soir. Le même jour, mais un peu plus tôt dans la journée, nous soutenons donc cette édition Big Question organisée par les GBU à l'intérieur de l'Uni, une série de conférences et nous offrons des sandwichs pour les participants. Il nous faudrait encore une personne mardi entre 8h30 et 10h30. L'action paquet de Noël continue. Mercredi, c'est la confection des paquets. Alors, vous avez déjà amené tout plein de choses. Voilà, il faut maintenant confectionner les paquets. Vous pouvez vous inscrire sur le panneau à la sortie. Ce qui a déjà été fait, puisque l'école du dimanche, enfin, les potes du dimanche, pardon, ont participé, ont réalisé des paquets dimanche dernier. Il y a 42 paquets qui sont déjà faits, 21 paquets pour les adultes, parce que des adultes ont également déjà travaillé. Et voilà, en fait, on est dans la suite. Et vous pouvez également participer au moyen d'un soutien financier. Il y a une tirelire à votre disposition. Vendredi 17, c'est le colloque, notre assemblée générale. Vous devez avoir reçu un ordre du jour. Il y a peut-être encore quelques enveloppes, mais normalement, elles ont été envoyées. Juste une chose à propos du colloque, s'il te plaît. À propos du colloque, dans le colloque, il y a un point relatif à la rencontre générale de notre fédération. Ce point, il y a des documents qui l'accompagnent. C'est 13 pages, n'est-ce pas ? J'en ai imprimé 4 exemplaires, mais je les ai oubliés à la maison. Alors, si vous les voulez, 52 pages de foutu loin. Si vous les voulez, vous venez vers moi et puis je prendrai votre email et je vous les enverrai. Voilà, samedi 18, le jour d'après, la rencontre de plusieurs fédérations d'églises évangéliques à Fribourg. One. Et vendredi 24. Voilà, c'est l'aboutissement, si on veut bien, de cette série d'ateliers bibliques, un forum table ronde avec des intervenants autour de la pratique du secret. Mardi 5, on vous annonce déjà le fil d'argent. Dès 11h30, vous pouvez vous inscrire auprès d'André Dufour, de Marianne Pfund. Et puis, important, on a vraiment besoin de renfort pour le nettoyage des locaux. Ça tourne sur... une série de groupes, 13 groupes idéalement, de 4 personnes. Ça représente 1h30 de travail 3 fois par année. Vous pouvez vous inscrire bien volontiers auprès de Clarlis Serex ou sur le panneau d'affichage qui se trouvera sur le passe-plat entre la cuisine et le réfectoire. Merci d'avance. Et puis avant... de passer à Noël en plein vent. Juste avant, je te cède la parole parce que tu voulais donner un retour sur la...
Je vais faire très court, simplement vous dire que j'ai eu le bonheur de participer pour la première fois à la retraite pastorale de la FRAE, donc notre union d'église qui se déroulait à Wilderswil dans le canton de Berne. Je suis revenu en un seul morceau, ce qui est assez prometteur. Et puis simplement vous dire voilà que je découvre moi une union d'église avec plein de ressources. Vous qui appréciez les réseaux sociaux comme Facebook par exemple, vous pouvez retrouver en particulier des ressources sur le compte de la FRAE. Et en particulier, j'aimerais mettre en avant les propositions de formation avec FRAE College et bientôt l'accueil de Mathieu Richel, spécialiste du livre de la Genèse, et de Henri Blocher dans quelques semaines. Donc n'hésitez pas, si jamais, à aller consulter et à vous inscrire. Ça vaut le coup, il n'y a pas de doute. Merci.
Alors, bonjour à tous. Encore une fois, on va répéter ce qu'on a dit la semaine passée. Mais c'est important parce qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui est là pour Noël en plein vent. Voilà, donc c'est Noël en plein vent, ce spectacle de rue qu'on va faire sur la place du village, juste au droit de la paroisse Saint-Julien, devant la salle Verchères. Vendredi 15 décembre à 19h et samedi 16 décembre aussi à 19h. Alors, on vous avait dit qu'il y avait des panneaux où on pouvait s'inscrire, donc on a vu qu'il y a beaucoup d'inscriptions qui sont venues pour la collation, beaucoup pour la chorale, et ça c'est super. Les acteurs, il y en a quelques-uns, et pour les acteurs, on tenait quand même à vous rassurer parce que souvent on croit qu'acteur ça fait un peu peur, il faut se dévoiler. Mais justement Thomas va vous montrer que c'est pas si compliqué que ça.
Ok, démonstration. Bonjour, vous allez bien, ça va? Alors on a trouvé notre Joseph, merci Seigneur. Il nous manque une Marie, alors il est tout seul, tout triste, mais j'ai déjà une idée. Bon, je la vois pas dans la salle, donc elle est safe pour aujourd'hui. Alors, il nous manque des bergers, des figurants. On aimerait bien 4 figurants, si c'est possible. Alors, vraiment, le mot figurant veut dire qu'il y a vraiment pas grand-chose à faire. Donc, n'importe qui peut faire. Après, si vous avez vraiment une envie de jouer et tout ça, vous êtes libre, hein, y a pas de souci. Et puis, les bergers, c'est pareil. Faut juste pas être allergique aux moutons. C'est le seul truc. Mais sinon, a priori, tout le monde est compétent, hein. Y a pas de problème. Donc, il y a des dates de répétition. Elles sont pas affichées. Mais si vous êtes intéressé, dites-moi si elles sont là. Notez-les. Allez-y, je vous laisse le temps de noter. J'accepte les enfants. Écoute, si Jésus accepte les enfants, je pense que c'est mon devoir de faire de même. Donc oui, j'accepte les enfants. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai un projet pour eux particulier dans le spectacle. Donc si vous avez des enfants, vous avez envie qu'ils fassent partie, dites-le moi. C'est bien, c'est le moment hein, de venir me donner vos adresses. Ok, et puis, alors oui, effectivement, c'est accessible à tout le monde, n'ayez pas peur. Et c'est a priori que du plaisir. Voilà, je vous attends.
Ok, alors juste pour rappeler, pour tout ce qui est pour les rôles d'acteurs, faut vous adresser vers Thomas. Pour la chorale, c'est Catherine Meyer, mais vous avez déjà reçu... il faut te lever parce que je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui te connaît. Il y a aussi pour l'accueil, c'est Claude Parnigoni, où là, il faut encore des personnes. La collation, c'est Claire-Lise Serex, mais j'ai vu que la liste était déjà bien complète. Et puis pour tout ce qui est logistique, ça vient pas. Pour tout ce qui est logistique, c'est Roger Heiniger. Donc là, il y a quelques personnes qui se sont annoncées. Un soutien, des aides et autres seront nécessaires. Il y a des éléments techniques. Donc on a déjà 2-3 contacts qui nous rassurent, mais il faudra quand même avoir 2-3 aides supplémentaires. Et comme toujours, je le rappelle, c'est un projet pour la gloire de Dieu, qu'on se le dise et qu'on se le rappelle. Voilà, merci.
Je vous invite à vous lever si vous voulez bien. pour la bénédiction qui nous accompagnera cette semaine. Je fais cette lecture des derniers versets de l'évangile de Matthieu. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors aux adorateurs et à ceux et celles qui pourraient être hésitants, Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Qu'il soit votre force pendant la semaine qui vient. Amen. »